On va commencer avec Hubert Reeves qui vient de s'installer pour la 8e saison des Musiques au Jardin. C'est le parrain, Hubert Reeves, l'astrophysicien bien évidemment, mais vous verrez que ce festival itinérant associe la musique, la littérature, les arts du jardin et qu'on y parle de biodiversité, d'humanité et que évidemment sur tout ça, il a qu'on le sait tous, sa place évidemment. Deuxième partie à 21h30, Michel Faux sera là pour la pièce de Monterland. Demain, il fera jour. C'est au théâtre de l'œuvre. Il est sur scène et il signe la mise en scène. La demi-heure coup de cœur après 22h, Christina Pluart, qui est harpiste et spécialiste de musique baroque avec un album qui s'appelle Méditerranéo, qui est sorti il y a quelques semaines. Le coup de cœur livre de Valentin Spitz pour Le Bonheur commence maintenant. C'est paru chez Flammarion. C'est signé Thomas Raphaël qu'on aura au bout du fil. Et puis un coup de cœur Twitter juste avant 22h30, Lise.
On ira dans le sud voir Mishkalia Maman qui expose des peintures à Roussillon en Provence.
Très bien. Lise Pressac est avec nous donc jusqu'à 22h30 avec vos messages, vos questions. Et Agnès L'Église, évidemment.
Bonsoir.
Salut Agnès.
Bonsoir Bérangère.
Ça va bien?
Ouais, super.
Chroniqueuse livre à Rock'n'Folk et sentinelle du web dans cette émission qui s'est penchée donc sur le parcours et ce que le web retient du parcours de tous nos invités. C'est parti donc avec Hubert Reeves.
Europe 1. Des clics et des claques.
Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir madame.
On est très heureux, très honoré de vous avoir. Vous êtes là, un astrophysicien dans la partie culture de cette émission. Je vous avoue que c'est pas fréquent, et c'est vraiment réjouissant. Il y a dans ce festival, dans cette huitième saison des Musiques au Jardin, toute une brochette de stars, les comédiens Michael Lonsdale, il y a Marie-Christine Barrault, il y a des écrivains aussi, Eric Orsenna, Philippe Bossan. Et puis vous, le parrain officiel, avec aussi l'association que vous présidez, Humanité et Biodiversité, la musique, les pieds dans l'herbe, d'une certaine façon. La question que je me posais, moi, c'était très simplement de savoir si la musique a, d'après vous, un pouvoir de conviction sur toutes ces questions-là, plus fort que les discours.
En tout cas, c'est plus accessible, c'est plus généralement intéressant pour les gens. Les discours, c'est toujours un petit peu ennuyeux. L'idée de ce partenariat entre notre association Humanité et Biodiversité, dont je suis le président, et cette fête musicale, c'est justement que un des grands problèmes de la biodiversité auquel nous nous intéressons dans notre mouvement, c'est que c'est difficile de le faire connaître. Tout le monde est au courant des canicules, tout le monde les a connues, tout ça, mais tout le monde ne sait pas que la mort des vers de terre et des papillons est aussi grave pour nous et même plus grave pour nous que, par exemple, la mort des rhinocéros blancs qui sont bien tristes. C'est bien triste, mais ça nous touche de plus près. Le fait que notre nature est en train de se détériorer, que des cadeaux que la nature nous faisait spontanément, comme par exemple les marécages qui purifient l'eau, les vers de terre qui oxygènent les sols, eh bien c'est en train de se perdre et nous allons avoir un énorme... Alors le problème c'est comment...
Mais vous voyez, Hubert, je vous interromps, mais là on est dans le discours. En quoi la musique... vous semblez dire que le discours ne porte pas, ou pas autant qu'on le souhaiterait.
Pas le discours lui-même. Le fait que dans cette association, on ait de la musique, des spectacles, avec des choses importantes mais pas si évidentes et qui sont peu connues, c'est un peu comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire qu'on met ensemble des quantités de choses que les gens aiment, ils aiment venir à une fête et en même temps, on en profite pour répandre ce message de cette chose qui est si peu connue et qui est pourtant si grave que nous appelons l'érosion de la biodiversité. Alors c'est une combinaison de deux facteurs pour essayer d'avoir un résultat, lequel résultat est que la biodiversité soit aussi reconnue comme aussi grave, ce problème aussi grave que celui de la pollution ou celui du réchauffement climatique.
Et alors vous convoquez, le festival convoque quelques auteurs qu'on n'attend pas forcément sur ces thèmes-là. Moi j'ignorais que George Sand avait un discours particulier sur la biodiversité, c'est le cas?
Oui, absolument. C'était une de celles
qu'elle raconte sur la biodiversité,
la première qui a senti qu'il y avait un problème là, qui a mis en évidence ce problème-là, qui était très peu connu à part quelques personnes comme elle, jusqu'à il y a quelques peu d'années. C'est un énorme effort que nous faisons et nous nous lisons, nous faisons venir tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, des textes de différents auteurs, différents poètes, dont elle, qui vont mettre un peu de une sorte de culture, que ça devienne une sorte de phénomène culturel important, et ce n'est pas simplement de ne pas de laisser mourir les vers de terre, mais que ça occupe tous les besoins de l'humanité d'une façon très grave, le problème de l'écologie, le problème de l'environnement, le problème de notre survie, après tout.
Il y a 4 spectacles donc, qui vont tourner dans une quarantaine de villes. Celui avec les textes de Georges Sand et Gilles Clément, c'est sur la biodiversité, ça s'appelle L'herbe folle. Il y a un Léonard de Vinci et la nature.
Il était très conscient de ces choses, Léonard de Vinci.
Avec des textes, quel texte en l'occurrence?
Je ne l'ai pas en mémoire là, mais c'est des textes qui ont à voir avec l'importance de l'ensemble de la nature et pas seulement de quelques éléments rares particuliers comme des espèces rares qu'il faut sauver, mais on veut mettre l'accent à côté de cela. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ces espèces les plus courantes. Je parlais des papillons, des vers de terre, qui sont beaucoup plus importants pour notre
société. Les abeilles. Bon, on a les parlé ces temps-ci beaucoup, parce qu'il y avait abeilles. Ce projet d'interdiction, là encore, à la Cour européenne.
On se rend pas compte jusqu'à quel point ces aides qui sont gratuits, qui nous sont donnés par la nature, sont en train de se détruire. Au Japon, où on a détruit des quantités d'insectes pour des plantes, on est obligé de les polliniser avec des petits bâtons. Et on emploie des foules immenses simplement pour faire le tour des fleurs de vanillier ou d'autres plantes.
Est-ce qu'il vous semble que ce genre de concert mobilise et touche un public différent ou est-ce qu'on est, mine de rien quand même, dans un public qui est un peu sensibilisé, qui sinon ne se déplacerait pas?
Il y a les deux. Il y a un public qui est sensibilisé à l'environnement et il y a un public qui est sensibilisé à la musique. Et les mettre ensemble, ça crée une synthèse, ça crée une... Il y a un avantage que tout ça prenne une forme plus globale, que ce soit pas simplement on regarde tel problème, on fait des discours sur tel problème, on fait pas de discours là, ou très peu, on lit quelques textes, mais c'est pour créer cette impression de l'importance sur le plan humain, sur le plan culturel de tous ces éléments.
Vous-même, vous êtes présent sur place, sur
pas
certaines...
Fois,
non, je me doute bien.
Non, parce qu'il y en a 44. Vous imaginez que...
Brest, Nanterre, Béziers, Montreuil, Lyon, Cachan, Paris, Dijon. Il y a un site internet d'ailleurs qui porte le nom du fondateur, qui est Patrick Scheider. On mettra sur la page Facebook de l'émission Scheider. Patrick-Scheider.info.
C'est lui qui est en gros l'âme du projet, qui le porte à bout de bras et qui a tout l'enthousiasme. Il a un enthousiasme très communicatif et ça, c'est très important.
Vous étiez il y a quelques semaines au cœur d'un spectacle sur il y a évidemment beaucoup de publications sur l'univers, vous avez beaucoup travaillé là-dessus vous avez aussi fait le lien comme ça avec Mozart.
Oui, c'est un autre spectacle que je fais.
Sauf qu'on est dans le même type de logique. Me semble-t-il, autour de la création et de...
De la création, de la créativité, mais pas particulièrement des problèmes présents de l'environnement. Ce spectacle qui s'appelle Mozart et les étoiles, c'est simplement le plaisir de mettre ensemble deux choses. On a d'excellents musiciens, le quatuor Calliope. On projette des belles images d'astronomie sur grand écran. Alors, les gens aiment les belles images d'astronomie, aiment la musique, donc on fait un spectacle de plaisir. C'est un spectacle de plaisir.
Mais il n'y a pas quelque chose comme la création artistique qui...
Oui, c'est le thème.
Une espèce d'aspiration vers la beauté qui fait qu'on respecte peut-être un petit peu mieux l'environnement.
Oui.
Dans ces conditions, il n'y a pas de ça aussi?
Oui, ça suit. Logiquement, ça fait partie de tout ça. Sauf que c'est plus insisté dans le programme que dans l'autre. Mais l'ensemble, bien sûr, tout ça se touche.
Vous êtes musicien, vous-même?
Non, j'aurais bien aimé être musicien. Je suis mélomane. J'ai fait de la direction d'orchestre un petit peu dans des petits groupes, mais pour les petits
de groupes.
Comme
quel ça, genre
modestement. Oui. De quel genre?
Oh, des pièces faciles, de Haydn, de Mozart.
Ah bah oui, tu vois.
Non, mais tout à fait pour le plaisir, c'est des amis.
À quel moment de votre vie vous avez fait ça?
À plusieurs reprises. Des amis musiciens qui m'ont dit, tiens, tu aimerais pas diriger telle chose, donc je m'y suis mis. Et puis j'ai fait beaucoup de travail comme récitant. C'était Pierre et le Loup, beaucoup d'autres spectacles. Comme je regrette de ne pas jamais être actif dans la musique, et comme je n'ai pas de connaissances de jeu, j'aime participer à l'émission, à ces programmes, parce que le musicien, le récitant a un rôle tout à fait analogue. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que les mots arrivent au bon endroit, comme les notes et tout ça. Et ça, j'ai fait ça de nombreuses reprises. Je le fais toujours avec plaisir.
Ça vous plaît manifestement. Mmh. Hubert Reeves est avec nous. Et Alex Hepburn, tiens, tout de suite. C'est Under.
Don't bury me.
Europe 1. Des clics et des claques.
Bérangère Bonte. Hubert Reeves est avec nous. On parle de ce festival itinérant Les Musiques au Jardin qui va se dérouler jusqu'au mois de novembre dans 44 villes. Ça a commencé au mois d'avril. D'ailleurs, vous me disiez que vous étiez il y a quelques jours à Bagneux, c'est
à
ça
Bagneux.
Avec donc les familles, beaucoup de familles,
oui,
les pieds dans l'herbe.
Oui, pas non, parce qu'il y a deux spectacles. Il y a une conférence et un spectacle. Mm-hmm. La conférence, c'est le soir, c'est des gens plus âgés, disons. Mm-hmm. Mais il y a pas mal de jeunes aussi. Ouais, et puis le lendemain, c'est la fête. Mais c'est une musique... mais c'est pas une musique qualité classique. C'est de la musique entraînante. Il va y avoir des valses de Strauss. Il va y avoir tout ce qui crée une ambiance agréable autour de... d'un concert en plein air.
Entraînant, vous voulez dire qu'on valse, les gens valsent aussi?
Je ne sais pas.
Peuvent
si
se lever.
En tout cas, ils ont des airs très entraînants.
D'accord.
C'est pas une musique pour intellectuels seulement.
Bon, on se penche aussi dans cette émission, Hubert Reeves, sur votre parcours et sur ce que le web en retient. Vous utilisez beaucoup, vous, Internet?
Oui, continuellement. Continuellement, plusieurs heures par jour avec tout ce qu'on a sur Facebook, sur Twitter, toutes ces choses-là qu'il faut suivre.
Vous pratiquez ça, les réseaux sociaux, beaucoup?
Moi, j'ai
un compte.
Un compte et j'ai un poste. Nous présentons avec notre groupe tous les jours quelque chose sur Facebook. Mm-hmm. Nous avons 50 000 amis ou quelque chose comme ça. Nous avons un très grand réseau. Donc, on leur présente des choses intéressantes, que ce soit dans l'environnement, ou quelquefois de la musique, ou quelquefois des tableaux, ou quelquefois de l'astronomie. Un petit peu des choses intéressantes qu'ils peuvent avoir directement comme ça, et ça marche extrêmement bien.
Quand vous dites « nous », c'est Humanité et Biodiversité, hein, c'est ça, c'est votre
nous sommes 3 ou 4
association que vous présidez. Oui. Agnès L'Église s'est penchée plus en détail sur tout ça.
Oui, alors quand on remonte, quand on étudie par exemple votre immense fiche Wikipédia, votre énorme bibliographie, puisqu'on parlait d'art, puisqu'il y a Mozart hein, dans le titre de cette conférence, de ce spectacle, je me suis intéressée au côté artistique en quelque sorte, et quand même, bien qu'on vous connaisse donc pour vos travaux scientifiques, dès le départ où il y avait quelques indices sur l'art et la littérature, puisque votre deuxième livre, maintenant j'ai plus le titre sous les yeux comme une idiote, Patience de l'azur, vous l'avez, ce titre est tiré d'un livre, d'un texte de Paul Valéry.
Exactement.
Alors je me suis dit, on va se faire plaisir, on va écouter quelques instants de la voix de Paul Valéry qui nous récite un fragment de Narcisse.
Que je déplore ton éclat fatal et pur, si mollement de moi, fontaine environnée, puisèrent mes yeux dans un mortel azur. Les yeux mêmes et noirs de mon âme étonnée. Profondeur, profondeur, songe qui me voyait comme il verrait une autre vie. Dites, ne suis-je pas celui que vous croyez?
Donc la littérature, et l'art ont toujours été importants dans votre vie.
Ah, ça, toujours, oui.
Et vous aviez donc le temps de lire.
Oui, je le prenais, oui.
Des littératures profanes, en quelque sorte.
Oui. J'ai toujours eu besoin des deux. J'ai toujours eu besoin de la science et de la poésie.
C'est le contraire, pratiquement. La poésie, c'est quasiment le contraire de la science. C'est ou la même chose ou le contraire, en quelque sorte, non?
Non, c'est différent. C'est simplement différent. La science, c'est l'exercice de la rationalité. La poésie, c'est l'imagination, l'émerveillement. Il n'y a pas de, conflit.
Et Paul Valéry, vous le lisez toujours?
Oui, ben, j'ai toujours beaucoup aimé Valéry. Il a un langage d'une telle pureté. Sauf que la façon de réciter a changé depuis cette période. C'était pas une période caractéristique, sa façon.
Vous avez l'air de le regretter un peu?
Non,
quand on l'entend
non,
dans sa voix, évidemment.
C'est... Non, je trouve ça un peu alambiqué, pour vous dire la vérité.
Oui, ça a beaucoup vieilli, on peut dire. Alors, à l'autre bout du spectre culturel, en quelque sorte, toujours dans les titres de vos livres, alors là, je suis tombée de mon fauteuil, quasiment. J'ai trouvé ça sur votre site. Le titre de votre autobiographie, qui s'appelait « Je n'aurai pas le temps », et dont vous dites sur votre site que c'est tiré de ça.
Je n'aurai pas le temps.
Je cherchais un titre à ce livre. Un jour, j'ai entendu cette chanson. Mais je me suis dit, c'est pile ça que je veux.
Donc, c'est un livre que vous avez écrit il y a quelques années, hein, maintenant.
Ouais, cinq ans maintenant.
Et quelques décennies. Et maintenant, vous diriez quoi? Que vous n'aurez pas le temps de faire quoi?
Ben, je n'aurai pas le temps de toute façon, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre ce qu'on découvre avec la science. Donc, je suis abonné aux revues scientifiques et je suis toujours avec intérêt les grands progrès. Mais je sais très bien que c'est limité. Qu'un jour, je ne recevrai plus mes Nature et mes Science. Et je suis frustré à l'idée que la science va continuer et que moi, j'y serai plus. C'était ça le but du titre. Je n'aurai pas le temps, ma vie ne durera pas assez longtemps, et c'est évident, pour tout savoir ce qu'on va savoir dans les années qui viennent.
De toute façon, on ne peut plus tout savoir. Enfin, moi, je me rappelle d'avoir appris à l'école que Léonard de Vinci, c'était le dernier homme universel qui savait tout sur tout. Donc maintenant, c'est foutu d'avance, ça, non, d'espérer savoir.
On ne peut pas tout savoir, ouais. C'est évident, mais on peut apprendre des choses passionnantes. On peut apprendre des choses passionnantes qu'on ignorait complètement sur le comportement de la matière, des animaux, des choses comme ça, des choses que les gens se demandent depuis très longtemps, puis tout d'un coup, la science vous les apprend.
Il faut qu'on marque une petite pause, on revient très vite avec Hubert Reeves.
Europe 1. Des clics et des claques. Bérangère Bonte.
Hubert Reeves est notre invité, l'astrophysicien, en l'occurrence amateur de musique, de littérature, philosophe, humaniste, on pourrait dire tout ça, autour de cette huitième saison du Festival des musiques au Jardin. On poursuit cette empreinte numérique.
Oui, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes donc de tous les combats pour l'environnement depuis plusieurs décennies maintenant.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement actuel
Eh bien, les choses se sont bien détériorées depuis le temps du Grenelle de l'environnement. Il y a quelques années, il y avait un enthousiasme au moment de l'élection de Sarkozy. Il y avait des quantités de choses qui se faisaient, des tables rondes.
C'est quand même un comble, globalement, non? Vous vous dites pas, parfois, cette équipe qu'on n'attendait pas forcément, qui est l'équipe Sarkozy, finalement, on aurait fait, si ça, si je vous écoute bien, on aurait fait plus que...
Il n'y a pas eu beaucoup de résultats, le Grenelle n'a rien donné, finalement.
Alors, j'allais y venir, mais...
C'est pas vrai.
Ah bon?
Le Grenelle a donné pas mal. Il n'a pas donné tout ce qu'on attendait, loin de là. Puis d'ailleurs, c'était illusoire. On ne peut pas tout résoudre les problèmes en arrière.
Qu'est-ce qui reste, d'après vous?
Ben, par exemple, il y a toutes ces tables rondes autour de gens qui ne se parlaient plus depuis longtemps et qui sont prêts à communiquer entre eux, des fois, pas toujours, entre les chasseurs, les agriculteurs, les écologistes. Dans beaucoup de cas, on s'est dit, au lieu de se battre, on va essayer de s'asseoir et d'essayer de tirer des compromis.
Il y a c'est une reprise du dialogue, mais dans les faits, c'est la lenteur, sans doute, de la machine de l'État, mais...
Il y a eu des choses intéressantes. Elles ne sont pas particulièrement spectaculaires, mais il y a eu des choses, mais il y a eu beaucoup d'échecs aussi. Et c'est ce qu'on essaie de retrouver, l'esprit du Grenelle, c'est-à-dire l'esprit du dialogue et non pas l'esprit du...
Et là, quand vous voyez le gouvernement actuel avec des écologistes en son sein, vous n'avez pas envie d'hurler, quoi?
Ce gouvernement ne s'intéresse grosso modo plus à l'écologie. Bon, leur excuse, c'est l'économie. Il y a une crise économique, ils disent qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui que de s'occuper des abeilles.
Alors que beaucoup d'emplois dépendraient d'une industrie plus écologique, par exemple.
Ils disent on n'a pas le temps, on est en faillite, on a des problèmes. C'est un gouvernement, sur ce plan, à très courte vue. Nous, notre devoir, notre tâche, c'est d'essayer de les ramener. Rappeler que M. Hollande a fait telle promesse, qu'un tel a fait telle promesse, que vous avez l'air d'avoir oublié tout ça.
Vous avez écrit il y a quelques semaines à Arnaud Montebourg, qui est le ministre du redressement productif, qui a donné une autorisation d'un permis minier aux Antilles pour une mine d'or dans une zone en Guyane, une zone très protégée. Oui. Il vous a répondu ?
Pas vraiment.
On n'a pas Donc eu pas. Vraiment. Pas, c'est quoi, pas vraiment.
Non, on fait des choses floues qui sont très gentillettes, mais qui sont pas, qui ne donnent rien.
Ça vous désespère ?
Non. On dit continuons le combat, comme disent les communistes. Je crois qu'il y a que ça à faire. Il faut pas perdre l'espoir. Il faut insister. Il faut recommencer. Il faut répéter. Puis il y a des fois des choses qui marchent. Je crois qu'on peut pas être complètement, je suis pas du tout complètement négatif, pas totalement positif non plus, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'améliorer dans beaucoup de pays, moins en France que dans d'autres pays, mais dans beaucoup de pays ça se débloque. L'Europe du Nord, l'Allemagne, l'Espagne,
le Canada.
Le Canada.
Autre patrie.
Le Canada a été très décevant. Il a été un des modèles pendant longtemps. Et puis avec les sables bitumineux de l'Alberta, le président, le premier ministre est devenu assez lamentable. Il a fermé boutique pour Kyoto, il a fermé à Copenhague. Non, on espère que ça va changer parce que pour l'instant, il est en queue alors qu'il était en tête. Je trouve ça assez désespérant.
Il y a des messages pour vous, Hubert Reeves, sur Twitter.
J'ai un défi pour vous. Vous savez que Twitter, c'est 140 signes. Marie-Flyne vous demande si vous pouvez nous expliquer la théorie des cordes en si peu de signes.
En 140 signes, c'est parti.
Alors, je dois vous dire que la théorie des cordes n'est plus très populaire aujourd'hui et elle n'est probablement pas la théorie que l'on cherche. Donc ça, il faut savoir que...
Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs ?
C'est une théorie qui prétend raconter d'où viennent les particules qui sont à la base de la physique et qui est un beau scénario. C'est un peu comme les ancêtres des particules élémentaires, mais c'est une théorie qui, grosso modo, ne marche pas.
Et elle serait sur des cordes ?
Oui, ben là, on entrerait dans les détails, on en aurait pour longtemps. Il me faudrait une dizaine d'heures pour expliquer la théorie des cordes.
Mais
ce qui est intéressant, c'est que c'est de moins en moins évident que ce soit la théorie qu'on cherche. Il y a des compétitrices qui donnent autant, et donc c'est une histoire ouverte. Mais il n'y a aucune garantie que la théorie des cordes va s'imposer comme aujourd'hui la théorie des électrons, des protons et tout ça, parce qu'elle ne correspond pas, elle ne répond pas à des résultats d'expérimentation. Pour qu'une théorie soit bonne, elle propose des choses. Et puis on fait des expériences, et si ces expériences sont en accord avec ce qui a été proposé, ça marche. Mais dans le cas de la théorie des cordes, il n'y a pratiquement rien, elle n'a rien expliqué, vraiment, à peu près rien expliqué. Ce qui nous intéresse d'une théorie, c'est qu'on apprenne des choses qu'on ne connaissait pas.